Voilà, on va ouvrir de la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1er, verset 1er. Si en cette période de l'année on ne lit pas ces textes, ce serait dommage. On va le voir. Matthieu 1, verset 1er. Dimanche, je vous parlerai de ce que Noël nous enseigne. On peut encore en parler, hein? C'est pas si loin que ça. Mais c'est bien de savoir pour avoir la répartie. Puis également pour soi-même, avoir de l'assurance. Amen. Déjà là, on va voir quelque chose de particulier. Ça, voilà, il est là. Alors, je lis donc du chapitre 1er jusqu'au verset... Ah non, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, le verset 1. Et après, on passe au verset 19. Vous l'avez noté comme ça? Eh oui, je ne l'ai pas spécifié. 1. Et puis après... Vous passez au verset 19 jusqu'au verset 25. Ça fera donc combien de versets à lire? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et non pas 25. Vous y êtes? Allez, on est avec le premier. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Verset 19. C'est bon. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. C'est un texte bien connu. Hein? Je ne l'ai pas lu dans l'entier, mais là, il y a l'apparition de l'ange, il y a les conversations, etc. Alors pour nous, Noël, eh bien, n'a pas commencé avec une hotte et un traîneau. Tu sais, même s'il est tiré par un renne. Hein? Ni avec un sapin, avec des guirlandes ou des cadeaux, justement, empaquetés au pied du sapin. Ça n'a pas commencé là. Ça a commencé, et nous le savons très bien, par la naissance de Jésus et du Christ, dans une étable à Bethléem. Dans la nuit de lundi à mardi, nous allons passer de 2018 à 2019. Je compte bien, vous aussi. Hein? Voilà. On gagne une année. Hein? Le calendrier change. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais le calendrier, d'abord, ce n'est pas une institution divine. Ce n'est pas Dieu qui a instauré le calendrier, en tout cas tel que nous l'avons aujourd'hui. D'ailleurs, Dieu n'agit pas selon le calendrier humain. Pourquoi? Parce qu'il contrôle l'histoire. Amen. Il contrôle l'histoire. Et s'il faut qu'on ait la persécution, il permettra qu'on ait la persécution. Il faudra qu'on l'ait. Certains pays l'ont eu. Il y a eu des révolutions. Et ensuite, il y a eu une grande liberté, une grande, je dirais, fusion de l'esprit. Et la foi est venue sur beaucoup. En tout cas, le calendrier a été, je dirais, trituré par les hommes. Et ils l'ont développé, ils l'ont redéveloppé, ils l'ont adapté, transformé, retransformé. Et tout ça, tout au long de l'histoire de l'humanité. On va en parler un petit peu. D'où viennent nos calendriers? Question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fil des âges, chacun a voulu créer son calendrier. J'ai mis S-O-N en majuscule, son calendrier. À compter, bien sûr, eh bien, les années d'après leur histoire à eux. Je parle des grands personnages, ceux qui sont devenus des grands leaders à leur époque. Par exemple, Jules César, en 46 avant Jésus-Christ, il a eu une grande influence sur notre calendrier aujourd'hui. On va en parler, hein, on va voir. Alors, pour faire coïncider les années lunaires avec les années solaires, il fallait ajouter 2 mois. Alors, il a ajouté comme ça, Januarius, et Februarius. Puis chaque année, eh bien, il fallait ajouter une journée, l'année bissextile. Hein, voilà, c'est vrai que c'est vieux tout ça. Hein. Alors, pour honorer Jules César, Julius, eh bien, le mois Quintilis a été appelé Julius. Hein, c'est devenu le mois de juillet pour nous. Vous voyez ? Alors, le problème, c'est qu'ils ont fait une erreur. Au lieu d'ajouter un jour tous les 4 ans, eh bien, ils ont ajouté un jour tous les 3 ans. Eh oui. Alors, il n'y avait plus de synchronisation du tout. Hein. Ainsi, au temps de César Auguste, Augustus, il a décrété qu'il fallait revenir à ce que Jules César avait dit. Et pendant 16 ans, eh bien, ils n'ont pas eu d'année bissextile, justement, pour rattraper le retard, pour y se mettre en harmonie. Eh oui. Alors, ça marcherait bien, si ce n'est que une année solaire n'est pas exactement 365 jours un quart, donc 6 heures. C'est exactement 365 jours, 5 heures et 42 secondes. C'est précis, hein ? Eh oui. Alors, au bout de 15 siècles, eh bien, ça finit par faire une grande, grande différence. Ainsi, le printemps, eh bien, ça ne tombe plus au printemps. L'été, non plus. L'hiver, non plus. L'automne, non plus. Vous voyez, tout était... c'est l'anarchie complète. Alors, en 1582, est venu le calendrier grégorien du pape Grégoire XIII. Il a réglé le problème en 1582 en enlevant 10 jours, tout simplement, dans une année. Il a enlevé 10 jours. Seulement, l'Amérique, l'Angleterre n'ont pas accepté ce calendrier. Et c'est en 1700, donc 1582, on est passé à 1752, presque 200 ans. C'est en 1752 que l'Angleterre, avec ses colonies américaines, ont fini par l'adopter. Alors la solution, elle est là. Le 3 septembre, eh bien voilà que le lendemain, au lieu d'être le 4 septembre, on était tout d'un coup le 14 septembre. Ah oui, il fallait enlever ces 10 jours là. Donc du 3, on est passé au 14. 11 jours comme ça ont disparu. Ils ont été effacés d'un coup de baguette magique. Mais je dirais heureusement que Dieu, eh bien, il n'attend pas après les calendriers des hommes. J'ai bien dit les calendriers, hein, parce que eh bien, on voit ce que ça donne. En 532, un moine s'appelle Denis, hein, Denis le Petit, a cherché l'année de la naissance de Jésus. Lui, il voulait comprendre, il voulait savoir. Alors, il a trouvé que l'année correspondait à l'an 754 de la fondation de Rome. Il est parti à partir de là. Il a dit, voilà, ce sera maintenant l'an 1 de la naissance de Jésus. Pourquoi pas l'an 0 ? Parce qu'à l'époque, le 0 n'existait pas dans les chiffres romains. Alors, le problème, c'est qu'il a fait une erreur. C'est que l'an 1, donc 754 de Rome, le problème, c'est que Hérode le Grand, il était mort depuis au moins 4 ans, 5 ans, enfin, cette période-là. Donc, ça veut dire quoi ? Que Jésus serait né 4 ou 5 ans avant Jésus-Christ. C'est comme ça les calendriers humains. On arrondit un peu les angles, on s'arrange, on s'organise comme on peut. Alors aujourd'hui, nous ne serions pas en 2018, hein, d'après donc son calendrier à lui. Alors, on serait peut-être en 2020, 2021. Vous voyez, on va basculer de 2022. Vous voyez ? Eh oui, c'est comme ça. Hein. Avec les hommes, c'est comme ça. En tout cas, c'est comme ça que l'on a commencé à compter déjà, tant d'années avant. Et tant d'années après Jésus-Christ. Amen. Donc, il y avait des erreurs, mais c'était dans le bon sens quelque part. Hein. Alors, l'histoire du monde, finalement, on le voit, il y a avant et après. Donc, elle a été scindée en deux parties. Je dirais, une partie, c'est avant la venue de Jésus. Amen. Et après, eh bien, c'est sa venue. Hein. C'est quelque part Jésus qui est le point de repère. C'est lui qui scinde l'histoire en deux. Avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Amen. Et il y a également, depuis que Jésus est devenu le maître de ma vie, le maître de votre vie. Votre vie a changé à partir de là. Amen. Il a quelque part scindé notre histoire à nous aussi. Il y a avant que je le connaisse, j'étais ce que j'étais. Et puis il y a aujourd'hui. depuis quelques dizaines d'années où j'ai rencontré Jésus et j'ai fait la paix avec Dieu. Et c'est devenu tout autre chose. Le but, mes orientations, mes désirs, mes aspirations sont de toute autre tournure, je dirais d'une autre valeur. Amen. Alors c'est comme ça. Et le jour où Jésus est venu sur la terre, quelque part c'est là l'événement qui a marqué, déjà on le voit, l'histoire de la datation de notre calendrier, mais également, eh bien quelque part, l'histoire de la vie humaine ici-bas. Amen. Avec Jésus ici-bas dans le monde, la vie n'est plus la même. Quand les Grecs ont eu leur première Olympiade, ils ont dit, nous allons dater le temps d'après cette première Olympiade. Hein? Ça n'a pas duré. Ensuite, il y a les Romains. Ils ont dit, nous allons toujours dater le temps d'après la date de la fondation de la ville de Rome. Ça n'a pas duré longtemps non plus. Il y a eu la Révolution française. On nous parle de ça, l'histoire de France. Hein? Eh oui. À la fin des années 1700, les Français ont dit, nous allons avoir un nouveau système de datation mondial. Parce que nous, la France, c'est toujours, on a toujours des grandes idées. Hein? Alors, on va partir du début de la Révolution française. Ça a duré, vous savez combien ? Entre 2 et 3 ans. Ça n'a pas duré longtemps, hein ? Eh oui. Alors, à chaque fois que vous datez, ou que vous allez dater maintenant, puisqu'on y est bientôt, hein, un chèque à partir de mardi, qu'est-ce que vous allez mettre donc comme date, le 1er janvier, si vous faites un chèque dès mardi, hein, 1er janvier 2019, eh oui. C'est par là que vous reconnaissez que 2019 ans en arrière, eh bien, un des événements les plus significatifs s'est produit. Amen. Il y a 2019 ans, il y a eu quelque chose qui a marqué l'histoire de l'humanité, qui la marque encore aujourd'hui, puisqu'on en parle aujourd'hui. Amen. La venue de Jésus sur la terre, tout simplement, c'est le seul événement digne, je dirais, de partager l'histoire humaine. Et pourquoi ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir un petit peu. On veut avancer 3 raisons à cela, il y en a certainement plus, mais j'en ai noté 3. La première, c'est que Jésus, c'est l'homme le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Amen. Eh oui. C'est l'homme le plus important que la terre ait connu, que l'humanité ait connu, qu'elle l'ait vu. Amen. L'ange, nous l'avons lu tout à l'heure, qui s'est présenté à Joseph pour lui faire connaître que Marie, justement, était enceinte par la vertu du Saint-Esprit, va préciser, elle enfantera un fils, Jésus. Il sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Il sauvera son peuple. Pour sauver un peuple qui est dans la déchéance, qui n'a qu'une destinée, c'est l'enfer, la perdition éternelle, il fallait quelqu'un de conséquent. Amen. Elle enfantera un fils, Jésus. On l'a vu, Emmanuel, Dieu avec nous, l'Éternel qui sauve. Et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors, heureusement que son nom est simple. Jésus, c'est simple. Hein? Moi, j'avais une voisine, elle appelait son fils Jésus. Alors, elle était espagnole. Et puis, elle faisait « Jésus !» On l'entendait hein, souvent, hein, habiter à côté de la fontaine, derrière chez mes parents. « Jésus !» Ça fait drôle. Hein? Et oui, d'autant plus maintenant que je suis chrétien. Hein? Mais son nom est simple quand même, Jésus. Eh oui. Hein? Il y a Isaïe, il a un fils qui s'appelait, vous savez comment ? Maher, Shalal, Ashbaz. Maler, Shalal, Ashbaz. Maler, Shalal, Ashbaz. Ouh. Eh oui. Un petit garçon peut prononcer simplement Jésus. Amen. Eh oui. Il sauve son peuple. Voilà quelque part sa grandeur. C'est un sauveur. Amen. Et quel sauveur ? Alléluia. La Bible nous dit que lorsque un homme eh bien, se trouve dans un état où il, quelque part, il se prend en dégoût, il se déteste, à ce moment-là, il y a une action qui se produit dans son cœur. Et là, ça permet justement à celui qu'on appelle le sauveur, Jésus, de venir et de transformer son cœur. Amen. Dieu est saint. Nous, nous sommes souillés, sommes perdus. Et Dieu nous donne son Fils. Formidable. Amen. La deuxième chose, c'est que Jésus accomplissait la plus importante mission de toute l'histoire. On sait qu'il y a eu des grands héros. On sait qu'il y a des chefs militaires. On sait qu'il y a eu des leaders qui ont permis des révolutions pour la libération d'un peuple, d'une nation. Mais lui, il a accompli la mission la plus importante. Sauver tous les hommes, toutes les femmes. Les amener à la réconciliation avec Dieu le Père. Amen. Alors même si certains ont eu des missions importantes, hein, je le disais tout à l'heure, eh bien personne au cours de l'histoire de l'humanité n'a eu une mission aussi importante que celle que Dieu a confiée tout simplement à Jésus, à son Fils. Parce qu'il faut le dire, Jésus c'est le Fils de Dieu. Même si ça n'écorche certains, Jésus c'est le Fils de Dieu. Amen. Même si les musulmans disent que Dieu n'a pas de fils, Jésus est bien né de la Vierge Marie qui, elle, eh bien, quelque part, n'a pas copulé avec un homme, mais a été mise en scène par la vertu du Saint-Esprit. C'est un miracle. Amen. Elle n'a pas connu d'homme. Joseph ne l'a pas connu. Ils n'ont pas fauté. Non. Ils sont tenus droits, purs devant Dieu. Et elle a mis en scène, eh bien, celui qui est devenu le sauveur du monde. Jésus lui-même nous dit par ses propres paroles pourquoi il est venu sur cette terre. Il dit, le Fils, dans Marc chapitre 10, verset 45, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Amen. Sa vie en sacrifice. Amen. Pour être lui, eh bien, mis sur l'autel, ou sur la croix, bien sûr. Permettez une illustration. Quand une personne est kidnappée, les ravisseurs, à un moment donné, font parvenir un message à ceux pour qui cette personne a une grande importance. Par exemple, allez, voilà la somme, voilà le prix, si vous payez ce prix-là, eh bien cette personne qui vous est chère vous sera rendue. Amen. Vous tenez elle. Allez, le fric. Vous voyez ? C'est ça, comme ça que ça marche. Alors c'est quelque part cela que Jésus dit. Hein. Il dit, je suis venu payer une rançon pour vos âmes. Tiens, finalement, je suis une personne chère pour Dieu. Et même si dans le monde, je suis quelque part le rejeté, hein, si je suis le mal-aimé, je ne sais pas quoi encore, mais je sais une chose, c'est que Dieu m'aime. Jésus m'aime. Puisque lui a choisi, quand Dieu a cherché, mais qui enverrai-je ? Il a dit, envoie-moi, Père. Nous devons les sauver. Moi, je veux y aller. Et c'est ce qu'a fait Jésus. Il dit, moi je suis venu payer une rançon pour toi. J'ai versé mon sang, j'ai sacrifié ma vie pour toi. Amen. Finalement, Jésus qui avait la meilleure des positions, eh bien, a négligé, je dirais, tout de ce monde. Son but, c'était tout simplement mourir pour nous des pécheurs. C'était sa mission, c'est le but pour lequel il est venu ici-bas. Amen. Pourquoi Dieu s'est-il revêtu de chair ? Eh bien, pour pouvoir mourir pour nous. La Bible nous dit qu'il existait en forme de Dieu, Philippiens 2, 6 à 8. Il s'est dépouillé, il a paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'était une forme de malédiction que de mourir pendu sur une croix. Une mort terrible, une mort lente. Il fallait que le crucifié souffre, qu'il agonise. On voit cette agonie, voyez ? Et c'est ce qu'a fait Jésus, il est mort sur le bois de la croix. Troisième chose, c'est que Jésus, eh bien, c'est le message le plus important de l'histoire de l'humanité. Par exemple, dans Jean 3, versets 14 à 17, je vais lire, hein, c'est Jean qui nous a laissé cette parole, « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Au verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Amen. Jésus, c'est le Sauveur. C'est notre Sauveur. Est-ce qu'il y a un plus grand message que ça ? Tu es un méchant. Tu es un abruti, tu es tout ce que tu veux, tu es impitoyable, mais il y a une solution pour toi. La société t'a rejeté parce que tu as fait pire et pendre. Mais Dieu peut te dire une chose, c'est qu'il peut pardonner, c'est qu'il peut changer ton ton cœur, ton âme, ton esprit, ta mentalité. Amen. Et ça, c'est par la mort de Jésus à la croix. Je peux venir à Dieu, je peux m'adresser à Dieu parce que, eh bien, Dieu m'a donné son Fils. C'est ça le message. Amen. Permettez une illustration encore. Il s'appelle Max Walsh. C'était un journaliste, un économiste australien réputé. Il est né en 1937. Il prenait des vacances dans les Alpes autrichiennes et se reposait. Voilà qu'une belle journée ensoleillée, il est sorti pour se détendre, faire un tour, aller voir un petit peu donc, dans ces Alpes. Il était pas très loin, à peine 2 km. Quoique 2 km en montagne, c'est pas mal. Hein. Là, on parle en temps, on ne parle plus en kilomètres. Mais donc, il était à peu près à vol d'oiseau à 2 km. Puis voilà que le temps s'est gâté. Il y a eu, comme subitement, ça arrive en montagne, ça change très vite, une tempête de neige qui s'est abattue sur la région, tout simplement. Alors, il était aveuglé par la neige, il était saisi par le froid, il a trébuché, puis il s'est cogné et il a perdu connaissance. Alors, le logeur, l'homme du refuge, voyant le blizzard, après lui avoir fait sentir ses vêtements, à son chien, bien sûr, il va l'envoyer, et il était dressé justement pour retrouver ceux qui se perdaient dans la neige. Alors, il va utiliser son odorat, son ouïe, et il a foncé dans la neige. Et puis, le chien a trouvé donc Max Walsh, tout simplement. Et comme il était dressé pour le faire, cet homme était inconscient, eh bien, il l'a saisi par la veste, voyez, avec sa gueule. Et puis, il tirait comme cela, eh bien, en le secouant, il tirait cet homme, tout simplement, à travers la neige. À demi-conscient, Max Walsh a ouvert les yeux, il a vu cet énorme animal devant lui, chien, pas chien, il ne savait pas. Et il a eu une peur panique, il a cru que c'était un loup, il le dira plus tard, il ne savait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son couteau, eh oui, et il a poignardé le chien. Alors, c'était une terrible blessure. Hein, le chien a lâché cette personne, il l'a abandonné. Il est revenu vers son maître au chalet tout simplement et juste à temps pour tomber à ses pieds mort. Vous voyez ? Il a fait juste le trajet qu'il fallait pour revenir. Alors cet homme a réalisé ce qui avait pu se passer et donc il a suivi les traces de sang à travers la neige tout simplement. Rapidement, il s'est dépêché tout simplement avant qu'elle ne soit effacée par la neige qui tombait. Il a trouvé cet homme donc et puis il l'a ramené et cet homme a été sauvé. Des années plus tard, Max Walsh s'est converti à Jésus. Et lorsqu'il parlait de son témoignage, eh bien, il racontait toujours ceci, je le lis. « J'étais perdu, je m'en allais vers l'enfer, et c'est en suivant les traces du sang, me conduisant jusqu'à la croix que je fus sauvé. » Il a fait un parallèle avec ce qui a permis qu'il soit sauvé. Amen. Le chien a donné sa vie pour le sauver. Amen. Déjà, eh bien, sa situation périlleuse, difficile, en montagne. Et plus tard, comme il le dit, j'étais perdu. Cette fois-ci, je m'en allais en enfer. Et c'est en suivant d'autres traces de sang, celle de Jésus, le sang versé à la croix du calvaire, que j'ai été sauvé. Amen. Voilà pourquoi nous sommes en 2018, après Jésus-Christ. Mardi, nous passerons en 2019. Amen. Je dirais qu'aucune marque, que finalement, eh bien, cette marque laissée, cette trace laissée avec la croix de Golgotha, eh bien, je dirais aucune marque dans l'histoire ne peut égaler celle que Dieu nous a laissée. Amen. C'est la marque de Jésus. Alléluia. Il a choisi tout simplement la mort, le sacrifice, pour nous donner la vie. Amen. Vous rappelez? Il y a 2018 avant Jésus-Christ. Il y a 2018 après Jésus-Christ. Amen. Et pour moi, il y a eu 1985 après Jésus-Christ. Il y a eu 1983, 84. Aujourd'hui, mourir. Mais j'ai été gardé. Et je le sais après. Je le suis après, j'ai compris. En 1985, quand je me suis converti, là, j'ai compris que Jésus, eh bien, il était mort non pas pour rien, mais il était mort vraiment pour me sauver. Il a scindé mon histoire en deux. Il a scindé la vôtre aussi. Hein? Amen. Parce que pour la plupart, nous sommes engagés, nous avons compris pourquoi Jésus était mort. Nous avons choisi de vivre et depuis nous vivons avec lui. Depuis combien vous marchez avec le Seigneur, vous? Vous êtes les plus âgés? 29 ans. Jean? Vous? Pareil, 29 aussi? Plus? Combien? 52 ans. Il y a plus? Qui dit mieux? Eh oui, 52 ans. Tu regrettes pas, si? Eh voilà, mais vu, c'était instantané. Hein? Eh oui. Merci Seigneur d'avoir scindé l'histoire. Notre histoire aussi. Amen. C'est là notre bonheur. Faisons-le savoir. Croyez pas? D'autres ont besoin de savoir. Amen. Nous avons un calendrier. Chaque fois qu'on écrit une date, qu'on signe quelque chose, et sur un acte ou autre, on met une date qui est un repère après Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Il nous a aimés le premier. Il nous aime encore. Amen. Même quand nous ne sommes pas à la hauteur. Même quand nous trébuchons, on ne va pas dire autre chose. Il nous aime quand même. Amen. À nous en retour, allez témoigner cet amour. Merci.